Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire orientale. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Les Abbassides, les Omeyyades, les Almoravides, Bagdad et les Mille et Une Nuits, Al-Andalus et l'Alhambra de Grenade. Voilà l'univers où nous convie François Reinhart dans son ouvrage « L'Orient mystérieux et autres fadaises ». Et pour ma part, je vais commencer par vous raconter l'invraisemblable histoire du plus grand médecin musulman, Avicenne.
Et tout à l'heure, vous recevrez le directeur de la rédaction et le rédacteur en chef d'Historia.
Oui, Pierre Baron et Patricia Crété qui viendront nous présenter la 4e édition des prix Historia. Nous allons évoquer d'ailleurs les lauréats de ces prix pendant toute cette semaine. Mais tout de suite, cap sur la Perse en l'an 1000.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand.
Al-Hussein Sina, que nous appelons Avicenne en Occident. Ibn Sina, ça donne Avicenne. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est ainsi. Avicenne, donc, survit dans la mémoire des hommes comme l'un des plus grands médecins de tous les temps. Mais il n'était pas seulement le maître de la médecine musulmane aux alentours de l'an 1000. En fait, c'est un génie universel que nous allons suivre sur le tumultueux chemin d'une vie tout à fait extraordinaire, depuis Boukhara, près de Samarcande, jusqu'à Ispahan et à sa mosquée bleue. Je dois vous avouer que j'ai découvert Avicenne il y a des années de cela grâce à la biographie romancée qu'en avait donnée Gilbert Sinoué et qui s'intitule Avicenne ou la route d'Ispahan. C'était paru chez De Noël et aujourd'hui on trouve cet ouvrage en édition de poche chez Folio. Pour écrire ce beau livre, Gilbert Sinoué s'est appuyé largement sur le texte établi par l'un des proches disciples, par un ami du grand savant, qui s'appelait Abu Obeid al-Jozjani, et qui a vécu dans l'ombre d'Ibn Sina pendant un quart de siècle. Alors nous allons nous aussi nous inspirer de cette quasi-hagiographie officielle, tout en essayant de voir ce qu'a pu être le rayonnement d'Avicenne de son vivant, mais surtout après sa mort. Le début du livre de Jozjani a été dicté par Avicenne lui-même, autant dire que nous disposons sur la genèse du personnage d'une source de première main, certes, mais qui était une source évidemment tout à fait subjective. Je vous situe un peu les choses. Ibn Sina, donc on va l'appeler Avicenne, ce sera peut-être plus simple, naît en 980, on est à l'époque carolingienne chez nous, à une époque où de par le monde, on voit progresser un certain pragmatisme, une orientation technicienne des choses, quelque chose comme les prémices de ce qu'on va appeler l'aristotélisme qui fait bon ménage avec le rationalisme abstrait. C'est l'époque des horloges à eau, du feu grégeois, tout ça est monnaie courante au Xe siècle. En terre d'islam, on assiste à une renaissance de la pensée qui s'appuie sur la traduction de la science et de la philosophie grecque. Ça, c'est assez fondamental. Et dans un instant, avec François Reinhart, on va voir à quel point, finalement, tous ces savants ont sauvé la pensée grecque. Tout près de Boukhara, donc on est aujourd'hui en Ouzbékistan, en Asie centrale, né donc Avicenne, dans la capitale de la dynastie des Samanides, qui sont des musulmans. Ces Samanides, c'est la première dynastie purement persane qui s'élève en Iran après la conquête arabe. Et c'est très important, ces Samanides, ce sont eux qui vont redonner confiance, qui vont redonner une certaine fierté au peuple iranien, au peuple persan. Avicenne est le fils du préfet d'un district de la région de Boukhara. Sa mère était une simple paysanne. Il est le fruit d'une mésalliance. Ça jouera très probablement sur son avenir et sur son enfance. Très tôt, cet enfant-là montre les signes de la plus vive intelligence. À 2-3 ans, il parle couramment. C'est assez stupéfiant. Il s'intéresse d'ailleurs déjà au Coran. Il parle non seulement la langue avestique locale, mais il s'exprime très vite, assez couramment, en arabe. Voilà ce que nous dit Mohamed Asimov. On raconte qu'un jour, la mère du tout jeune Hussein baignait celui-ci dans une cuvette où elle laissa par mégarde tomber une bague en or qu'elle jeta ensuite avec l'eau du bain. S'étant aperçue de la disparition du bijou, elle en rendit responsable une servante qu'elle châtia sévèrement. Alors le petit Hossein voulut réparer l'injustice. « Mère, dit-il, tu peux demander pardon à la servante, elle n'a pas perdu ta bague. » Tels auraient été les premiers mots, en tout cas les premiers mots répertoriés d'Avicenne en ce monde. Vous êtes bien conscient qu'il y a une véritable hagiographie sur ce personnage. On a construit, on a tissé la légende d'Avicenne et un certain nombre des épisodes qui émaillent sa vie sont au moins aussi légendaires qu'historiques, évidemment. À 10 ans, en tout cas, on prétend qu'il avait totalement achevé son programme scolaire. Il était capable de réciter par cœur les 114 chapitres du Coran. Et il avait déjà, par ailleurs, emmagasiné un savoir prodigieux au point que, semble-t-il, son propre précepteur, le philosophe Nabili, ait été obligé de déclarer forfait. Il n'avait plus rien à apprendre à cet enfant ou à cet adolescent. À 16 ans, dit-on, et même selon certains biographes, à 15 ans, Avicenne était déjà un médecin et un médecin réputé. On voyait les malades affluer vers lui. Il n'est pas seulement un savant et un praticien, on disait qu'il avait une empathie considérable et qu'il avait l'intelligence des êtres. Il était capable de comprendre d'une manière globale les phénomènes, les patients qui étaient en sa présence. Il considérait chaque cas médical comme une véritable énigme à résoudre. À 18 ans, il a, dit-on, assimilé tout le savoir du temps d'une manière encyclopédique. Voici ce que dit son disciple, hein, c'est toujours Giusjani qui parle. « Vers 18-19 ans, je m'étais familiarisé avec toute la science philosophique. » Il parle à la première personne. « La logique, la physique, les mathématiques, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, la musique, la médecine et maintes autres disciplines, de sorte que je ne rencontrais personne qui pût me tenir tête. » C'est ce personnage tellement précoce qui va être appelé à la cour de l'émir Nuh ibn Mansour qui était tombé malade et qu'aucun médecin n'arrivait à l'époque à soigner. Alors, nous dit toujours Giusjani, Avicenne se présente et il arrive, il est déjà très réputé pour l'ampleur de ses études. On a parlé de lui devant le prince et le prince a eu la bonne idée de le convoquer. Je dis qu'il a eu la bonne idée parce que Avicenne va guérir l'émir et immédiatement, bien entendu, c'est pour lui la fortune, c'est la reconnaissance. Il va devenir un médecin de cour. Il est entré dans les bonnes grâces du prince qui, surtout, va lui ouvrir sa bibliothèque. Et c'est là, et c'est de cette manière, qu'Avicenne va faire connaissance avec les grands savants de l'Antiquité. C'est de cette manière qu'il va se familiariser avec le savoir des Grecs.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire orientale avec vous, Franck Ferrand. Vous nous contez l'histoire d'Avicenne.
En l'an 1001, c'est-à-dire qu'il est encore un jeune homme, hein, il a 21 ans, Avicenne réalise que la dynastie samanide est fragile. Il prend conscience de la précarité de l'État et il décide de s'en aller. Il part pour Gorgange, qui est la capitale de l'actuel Turkménistan. Et là, il fait la connaissance d'un vizir qui s'appelle Abdul Hossein al-Sohaili, qui est épris de science, qui est un esprit très ouvert, qui est lui-même un esprit encyclopédique et qui va devenir un ami d'Avicenne, qui le présente donc au prince local, Ali ibn Mamoun, un homme qui a lui-même regroupé autour de lui toute une cour de savants comme Al-Biruni, hein, pas n'importe qui, l'homme quand même qui a étudié la rotation de la Terre, non seulement autour de son axe, mais autour du Soleil, et qui avait écrit à l'époque déjà 70 ouvrages d'astronomie. Il y avait à cette cour Abu Nasr el-Harak, il y avait Abu Sal, le penseur chrétien, un certain nombre d'autres. C'était une sorte d'académie musulmane de l'époque. C'est une période extrêmement brillante de la vie d'Avicenne. Le jeune Hossein est très heureux au milieu de cette espèce de bouillon de culture. Ça non plus, ça ne va pas durer, puisque Mahmoud exige le transfert des hommes de science réunis à Gorgange. Alors, la plupart acceptent. Mahmoud notamment s'incline. Pas Avicenne, qui lui s'enfuit avec Abu Sal, le chrétien. Il passe par le sud-est de la mer Caspienne. Il se retrouve assez vite seul, puisqu'Abu Sal va mourir en cours de route. Et lorsqu'il arrive à Gorgane, Avicenne fait la connaissance de Giusjani. C'est là qu'il va rencontrer celui qui deviendra donc son disciple et son fidèle jusqu'à la mort. Il vit pendant 2 ans à Gorgane. Il se consacre à la lecture, à l'écriture. C'est notamment là qu'il commence à écrire le fameux canon de la médecine, qui sera l'une de ses œuvres principales. Je vais vous en dire un mot dans un instant de ce canon. Mais évidemment, il est très vite repéré. Il doit quitter Gorgan, il se rend à Rai, on est là au sud-ouest de Téhéran. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de cette petite ville. Il se trouve appelé par la mère du prince Magdolawa qu'il va soigner et qu'il guérit. Et c'est là qu'on va lui donner ce surnom de Shir el Raïs. Il devient le premier des sages, en quelque sorte. Il devient le grand maître. Alors, quels sont les préceptes d'Avicenne tels qu'ils figurent dans le canon de la médecine? D'abord, une recherche essentielle et constante de l'équilibre et de l'unité. C'est cette espèce de recherche d'harmonie, vous savez, qu'on retrouve dans toute cette culture arabo-musulmane. On va en parler dans un instant, évidemment, avec François Reynard. Il ne doit pas y avoir, nous dit Avicenne, de contradiction entre corps et esprit, mais pas non plus entre individus et société, ni entre science et foi. Il y a une sorte de continuum entre la nature et l'homme, et entre ce qu'il y a de rationnel et ce qu'il y a de religieux dans la pensée. La médecine d'Avicenne, il faut le savoir, il faut le comprendre, a d'emblée éliminé toutes les explications magiques, maléfiques, irrationnelles, etc., pour se concentrer sur des explications compréhensibles et rationnelles. Avicenne distingue la médecine en médecine théorique et médecine pratique, et il subdivise celle-ci en médecine curative et médecine préventive, une médecine préventive qui, chez lui, joue un rôle tout à fait essentiel. Et puis, et c'est peut-être ce qu'ont retenu les médecins modernes de l'expérience de ce très grand praticien, qui, vous l'avez compris, est en même temps un sage, c'est que l'essentiel de l'attention doit se porter sur sept domaines qu'a parfaitement identifié Avicenne: l'hygiène du temps, tempérament, et là c'est ce qu'il appelle le milieu intérieur, le choix des aliments et des boissons, ça c'est l'hygiène du milieu intégré, l'assainissement des excrétas, l'hygiène de la constitution, c'est toute la notion de forme physique, et c'est ici qu'intervient notamment la médecine préventive, l'assainissement du milieu inhalé, et c'est la première fois qu'on s'intéresse à l'atmosphère sans en connaître d'ailleurs la cause. Avicenne ne sait pas forcément pourquoi il tient à ce que ces malades respirent un air pur, mais en tout cas c'est ainsi. Hygiène vestimentaire, hygiène de l'activité corporelle, enfin hygiène de l'activité mentale. Et dans cette activité mentale, il n'y a pas seulement la pensée, il n'y a pas seulement les disciplines de l'esprit, il y a également la bonne régulation des heures de sommeil et des heures de veille. Vous l'aurez compris, Avicenne soigne autant l'âme que le corps, et l'on peut dire que au-delà d'une grande médecine, c'est une véritable philosophie qu'il a contribué à développer et à faire connaître, une philosophie dont une grande partie est empruntée à des savoirs plus anciens, mais ça nous allons voir jusqu'où.
Un extrait de « Sur un marché persan » d'Albert Ketelbé. Et Franck Ferrand, vous continuez à nous parler de la vie d'Avicenne.
Alors quand je vous raconte la vie d'Avicenne, on a presque l'impression que c'est seulement un sage qui consulte ses malades le matin et qui passe ses après-midi à écrire le canon de la médecine. Ou surtout, ce qui va devenir le grand livre d'Avicenne, Al-Shifa, c'est-à-dire le livre de la guérison de l'âme. En vérité, les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, Avicenne a eu toute sa vie un grand nombre de concurrents. Il a semé sur sa route un grand nombre d'envieux qui l'ont accusé de tous les maux, et notamment beaucoup de compilations. Ça n'est pas entièrement faux, puisqu'une part non négligeable des sommes écrites par Avicenne, on dit qu'il écrivait entre 50 et 60 pages par jour. Une grande partie de ce qu'il écrivait était effectivement puisée à des sources plus anciennes qu'il recyclait, dont il faisait son miel. Ça, c'est incontestable. Mais il y avait chez lui une véritable originalité et une véritable singularité de l'esprit. Et puis d'autre part, et je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, il faut bien avoir à l'esprit que sa vie est une perpétuelle course-poursuite avec les autorités successives. En 1021, le prince Shamsoddaullah vient à mourir et son fils ne veut plus d'Avicenne comme conseiller. Il faut dire qu'Avicenne, depuis plusieurs années, était devenu le vizir, il était devenu le premier personnage de la cour. Et le fils veut changer de conseiller, et à partir de là, il devient l'ennemi d'Avicenne, qui se cache dans un premier temps chez un ami, qui prépare sa fuite. C'est d'ailleurs pendant le temps où il est dans cette cachette qu'il va achever quasiment le livre de la guérison de l'âme, hein, Al-Shifa, sans source. Parce qu'il ne peut, évidemment, il n'a pas de bibliothèque à sa disposition à ce moment-là. Donc, il puise tout dans sa prodigieuse, dans son invraisemblable mémoire. C'est en tout cas ce que veut nous laisser penser son disciple. Et puis, ayant adressé une lettre au prince Alaoudaoula d'Ispahan, eh bien, il va partir pour Ispahan. Problème, la lettre est interceptée. Grâce à cette lettre, on arrive à retrouver ses amis et donc sa cachette. Il est arrêté, emprisonné avec son disciple Juzjani, et il va passer là 4 mois terribles. Mais 4 mois terribles pendant lesquels, néanmoins, il continue d'écrire et de dicter. Il va écrire 3 grosses sommes médicales, dont une très célèbre, qui sont les fameux remèdes pour les maladies cardiaques d'Avicenne. Vous voyez l'espèce de capacité de cet homme à surmonter constamment des épreuves incroyables et à, en dépit de toutes les vicissitudes et de toutes les difficultés d'une vie vraiment chaotique, à accumuler les sommes et à développer un certain nombre de thèses et de traités qui sont des traités médicaux, mais encore une fois, vous l'aurez compris, pas seulement médicaux. Lorsque, après la victoire du prince d'Ispahan, Avicenne retrouve la liberté, il doit rester dans un premier temps vivre à Ramadan. Il s'enfuit en 1023 et là il gagne Ispahan, toujours en compagnie de Juzjani d'ailleurs. Il est placé à ce moment-là sous la protection du prince Alaoudaoula et c'est, on peut dire, dans ces conditions alors nettement plus tranquilles qu'il va passer les 14 dernières années de sa vie. Et ça c'est très important. Car si Avicenne n'avait pas bénéficié pendant de nombreuses années, pendant 14 ans, de la protection du souverain d'Ispahan, et s'il n'avait pas vécu dans une forme de tranquillité à la fin de ses jours, il n'aurait pas eu le très grand nombre de disciples que l'on sait, et il est très probable donc que sa mémoire ne nous serait pas parvenue, en tout cas dans les mêmes proportions. Avicenne, grâce à cette période de paix à la fin de sa vie, va pouvoir faire école et il aura de très très nombreux disciples, bien entendu. Il mourra au cours d'une campagne menée pour le prince d'Ispahan. Il n'est d'ailleurs pas mort au combat, il va mourir simplement d'une affection intestinale. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il mourra le premier vendredi du mois de Ramadan 428, donc on est en 1037, ce qui est facile à calculer puisqu'il était né en 980, il meurt à 57 ans. Alors, une légende voudrait qu'Avicenne ait voulu survivre en quelque sorte, ait voulu revenir de la mort, ait voulu vaincre le trépas. Il aurait préparé 40 produits différents que son disciple devait lui administrer dans un certain ordre aussitôt après qu'il serait passé de vie à trépas. Le disciple, dit-on, se serait acquitté de sa tâche avec beaucoup de précision et, à sa stupéfaction, à mesure qu'il administrait au cadavre d'Avicenne les soins qui avait été prévu, eh bien, il voyait ce corps redevenir souple, rajeunir à vue d'œil, et voilà que le visage du maître redevient rose, et voilà que sa respiration peu à peu reprend. Il y avait une dernière ampoule qu'il fallait lui donner pour qu'il reprenne conscience et pour qu'il se remette à parler. Alors Juzjani est là avec l'ampoule, il la casse, dit-on, et un peu fébrile, eh bien, il fait tomber le précieux liquide. Il ne pourra pas ranimer son maître qui restera au paradis d'Allah. C'est en tout cas, bien entendu, la légende qu'on racontait. On se demande du reste pourquoi raconter de si fortes légendes lorsqu'on a affaire déjà à une réalité aussi extraordinaire. Ordinaire. Bonjour François Reynard.
Bonjour Franck.
Alors on a bien compris que cette vie d'Avicenne est en partie légendaire, bien entendu. Comme tous ces très grands savants de l'époque de l'an 1000, on a beaucoup brodé. Il y a eu toute une tradition qui s'est développée. Le personnage n'en reste pas moins un des grands maîtres de la pensée musulmane.
Alors il reste non seulement un des grands maîtres de la pensée musulmane, mais il va devenir un des grands maîtres de la pensée européenne. C'est grâce à des noms comme Avicenne, grâce à cette transmission qui va se faire vers le 12e, 13e siècle du monde arabe jusqu'au monde européen, que l'Europe va se développer, elle lui doit beaucoup.
Dans un instant, nous allons voir exactement ce qu'on doit non seulement à Avicenne, mais à tous les autres.